France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Psychologie.
Musique et moi.
Sorge Chalandon.
Elsa Boublil.
Notre revanche sera le rire de nos enfants.
Bobby Sands, le patriote irlandais incarcéré peu avant sa mort en grève de la faim.
Have you heard of Billy the Flutter of the town of Manly Muck? The times are going hard with him, in fact the man was drunk. So he just around a notice to his neighbours one and all, as how he liked the company that aimed and had the ball. And when writing out he was careful to suggest to them that if the founder had to his companion to the door, the more they put in whenever he requested them, the better would the music be for batter on the floor. With the tune on the flute and the twiddle on the fiddle, oh, hopping in the middle like a heron on the griddle, oh, up, down, hands around, crossing to the wall. Oh, hadn't we the gaiety, it filled the flutist ball. There was Mr. Dennis Doherty, who kept the running dog. There was little Crooked Paddy from the Tirralocket Bog. There were boys from every barony and girls from every art, and the beautiful Miss Brady's in a private ass and cart. And along with them came the bouncing Mrs. Cafferty. Little Mickey Mulligan was also to the fore. Rose Suzanne and Margaret the Rafferty, the flower of Antrim Gullion and the pride of Fetherwall. With a tune on the flute and the twiddle on the fiddle, hopping in the middle like a heron on the griddle. Up, down, hands around, tossing to the ball. Oh, hadn't we the gaiety, it filled the flutist ball. First little Mickey Mulligan got up to show them how, and then the widow Cafferty steps up and makes a bow. I could dance you off your legs to see you sure as you were born, if you'll only make the piper play the hare was in the corn. So Phil played up with the best of his ability. The lady and the gentleman began to do the share. Faith then, Mick, it's you that has agility. Begara, Mrs. Cafferty, you labored like a hare, with a toot on the flute and the twiddle on the fiddle, up and in the middle like a heron on the griddle. Up, down, hands around, cross onto the wall. Oh, hadn't we the gaiety, it filled the flutist ball. Then Phil the Fluter tipped the wink to Crooked Little Pat. I think it nearly time to see for passing round her hat. So Paddy passed the corbin round and looking quite acute. Yeah, you got to pay the piper when he tootles on the flute. Then all joined in with the greatest cordiality, covering the buckle, the shovel and the cut. Jigs were danced to the very finest quality, but the widow beat the company at handling the fun. With a toot on the flute and the twiddle on the fiddle, oh, hopping in the middle like a heron on the griddle, oh, up, down, hands around, crossing to the wall. Oh, hadn't we the gaiety at Philip Lugol's ball.
C'est sur cet air traditionnel irlandais interprété par Peter Dawson que nous vous accueillons, Serge Chalandon, journaliste au Canard Enchaîné, ancien grand reporter, prix Albert Londres en 1988. Vous êtes l'auteur de 9 romans, dont plusieurs ont été primés, Une promesse par le prix Médicis, Retour à Killybegs par le Grand Prix de l'Académie française et Le quatrième mur par le prix Goncourt des lycéens. Vous signez en cette rentrée Une joie féroce chez Grasset, comme tous vos autres romans d'ailleurs. Une histoire de femme qui traverse la tragédie du cancer. Bonjour Serge Chalandon.
Bonjour.
Ce chant traditionnel irlandais sur lequel vous avez sautillé, sifflé et fait des bruits de bouche, est-ce que ça vous convenait?
C'était... Ça me convient très bien. Puis en plus, c'est extrêmement rare les chants qui ne sont pas irlandais, qui ne convoquent pas la mort, la lourdeur des nuages, la pluie, la tristesse, l'exil. Et là, donc là, tout va très bien. C'est un très bon choix.
C'était aussi en écho à cette phrase de Bobby Sands, qui elle est plus difficile,
hein,
et qui est une phrase que vous avez acquise, on peut dire, il y a déjà longtemps,
oui.
et qui sied bien aussi à votre dernier roman, mais je dirais presque à tous vos romans, puisque il s'agit toujours de combat dans vos romans.
Oui, c'est moi, je sais que j'ai eu une enfance extrêmement dure avec un père extrêmement fou, et c'est vrai que que le sourire de mes enfants ou le rire de mes enfants, c'est ma revanche à moi. Donc oui, c'est-à-dire que j'ai souvent croisé la guerre dans ma vie, et donc j'ai essayé d'en faire profiter mes personnages pour me décharger un petit peu de ce drame. Mais c'est vrai que, y compris dans le dernier roman, même si c'est une guerre particulière, c'est pas une guerre, l'ennemi n'est pas à nos frontières, l'ennemi est en nous avec le cancer. Donc l'ennemi est un traître, et en plus l'ennemi on l'accueille, et donc c'est une guerre comme les autres, et c'est une guerre qu'il a fallu combattre comme les autres.
Et dans ce roman, vous vous mettez à la place d'une femme, et c'est étonnant d'ailleurs, parce que on passe son temps à devoir se dire, ah mais c'est Sorge Chalandon qui l'a écrit, c'est un homme qui l'a écrit, on est vraiment, vous êtes complètement identifié à la problématique féminine.
Il y a quelques jours, ça tombe très bien, puisque j'ai une copine qui m'a envoyé un petit SMS en me disant, Sorge, t'es une sacrée nana.
Et ça vous a fait plaisir.
C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire.
Vous avez déclaré dans un article à La Croix que la musique est centrale pour l'écriture, pour la vie en général. Ça tombe bien puisque vous êtes l'invité de Musique et Moi ce matin. On va pouvoir dresser votre portrait à travers vos goûts musicaux. On sent qu'elle est là, on sent qu'elle est très présente. Et pourtant, dans l'enfance, je suis pas certaine qu'elle ait été tant présente que ça. On est ravis de vous recevoir, Sorge Chalandon. Vous êtes avec nous sur France Musique jusqu'à 12h30.
Thank you.
François Dumont interprète le Nocturne pour piano numéro 2 en mi bémol majeur opus 9 de Frédéric Chopin. Pour commencer cette émission avec vous, Sorge Chalandon. Et bien sûr, l'enfance, c'est un souvenir, on commence toujours par les souvenirs, les premiers émois musicaux.
Les pires
peut-être. En tout cas, c'est lié à quel moment de votre vie?
Eh bien, en fait, c'est lié à l'école. Puisque lorsque l'enfance est un piège et lorsque la maison est une prison, l'école est un, ça peut pas être bizarre pour des enfants, mais est une fenêtre ouverte. Et j'avais, notamment en sixième et en cinquième, on avait une professeure de musique qui nous faisait écouter des morceaux de musique sur un vieil électrophone de l'époque. Mmh. Et c'est la première fois que j'entendais ça. C'est cette musique-là, je l'entendais pas dans la rue, évidemment. Je l'entendais pas à la maison, parce qu'il y avait pas de musique, c'était une maison silencieuse. La maison où il y avait pas de livres, où il y avait pas de disques chez nous. Donc il y avait la radio en fond sonore avec les jeux comme le jeu des 1000 francs. Mais il y avait
sur
pas...
Sur France Inter, donc.
Sur France Inter. Mais il n'y avait pas de musique classique, il n'y avait rien de tout ça. Et cette professeure qui aurait été un peu un topaze féminin, donc un peu raide, un peu rêche, un peu revêche. Je me souviens d'une dame qui était plutôt en bleu marine. Mais brusquement, lorsqu'elle mettait de la musique, elle fermait les yeux, il avait son petit doigt qui se promenait dans la classe, et je découvrais une beauté que je ne soupçonnais pas.
Et ça vous a vraiment cueilli? Et vous avez pu l'accueillir?
Alors ça m'a cueilli parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que moi aussi, je fermais les yeux comme elle, c'était pas pour faire comme ma prof, mais je fermais les yeux comme elle, et j'avais l'impression de m'évader de ma famille, de m'évader de l'école, et je découvrais la musique dans un lieu où théoriquement, on ne la découvre pas.
Les joies d'aller à l'école, parce que dans cette maison, dans cette enfance, on va en parler, mais d'ailleurs, vous en avez parlé très joliment, si j'ose dire, dans Profession du Père, paru chez Grasset, il y a quelques années. Dans cette maison, c'était le silence absolu tout le temps?
Oui, c'était c'était un silence qui était rythmé par les bruits du père. Non pas les bruits, c'est-à-dire sa façon de manger, sa façon de poser son couteau à table, sa façon de tousser. Il avait une toux très particulière le matin et le soir. Sa façon de dormir, disons, fort. Mmh. Sa façon de traîner des pieds avec des mules en cuir dans l'appartement. Et on était tous silencieux avec les bruits du père. Et quand, avec mon frère, quand même, nous faisions de temps en temps, on avait quelques petits rires, le rire de leurs enfants. Et je me souviens très bien du geste de ma mère qui mettait son doigt sur sa bouche. Ne dérangez pas papa, parce que j'avais un père qui théoriquement disait qu'il était souvent malade, donc il était souvent dans une chambre fermée. Et c'est là où je suis allé voir, il y a quelques années, je suis allé voir quelqu'un pour mon dos, pour je marche mal, donc je me suis dit que peut-être voir un kiné, ça pourrait être intéressant. Et il me dit: c'est bizarre, vous marchez sur la pointe des pieds. Mmh. Et en fait, j'ai marché toute mon enfance sur la pointe des pieds pour ne pas déranger mon père.
Thank you.
André Isoard interprète cette fugue de la fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542 de Jean-Sébastien Bach, qui nous renvoie de nouveau à l'école, je crois, Serge Chalandon, puisque c'est à l'école que vous avez découvert la musique, puisque vous le disiez tout à l'heure, vous avez grandi dans un silence rythmé par des bruits de savates
de père,
au sol.
Des bruits de père. Et cette fugue, d'abord, elle m'a plu. Pourquoi ? Parce que le mot fugue. Je fuguais lorsque j'étais enfant et je trouvais que cette musique, c'est voilà, c'était j'étais dehors, il y avait du vent dans les cheveux, il y avait, je veux dire que c'est une course. Quand je l'entends, je dévalais des plaines, des montagnes, je sautais des ruisseaux, j'étais absolument ailleurs. Et la première fois que je l'ai croisé, encore cette même professeure de musique, c'était en décembre 64. Notre lycée, qui s'appelait le lycée des Minimes à Lyon, s'est appelé lycée Jean Moulin, après le grand discours de Malraux, où les cendres supposées de Jean Moulin ont été
transférées au Panthéon.
Au Panthéon. Et elle nous a lu un passage du discours de Malraux sur cette musique-là. Et je crois que j'étais le seul de tous les élèves qui étaient là. J'ai pleuré. Parce que pour une fois, je comprenais quel était le poids des musiques, des paroles et de l'histoire. Et c'est la première fois de la vie, de ma vie d'enfant, que je me retrouve, je me suis dit, tu es confronté à la grande histoire, à la résistance, la France, Jean Moulin, et tout ça baigné par les paroles de Malraux, et Bach qui vient dessus envelopper tout ça. Et j'ai pleuré, j'en avais un petit peu honte, parce qu'évidemment, dans une classe, même quand il y a de la beauté comme ça, il y a des gens qui rigolent ou qui font autre chose. Mais je savais que pour moi, lorsque j'entends parler de décembre 64 et de Jean Moulin, pour moi, c'est associé à une vieille prof qui avait envie que sa classe se taise, cesse de faire les sauts et de leur dire, voilà, mes enfants, vous faites partie d'une histoire qui nous est commune. Et cette histoire qui nous est commune, elle a des mots. Et elle a des notes.
Et par rapport à l'histoire de votre père, Serge Chalandon, lui qui vous enfermait, et je crois, si l'on en croit votre roman Profession du Père, qui vous racontait un peu, il réécrivait l'histoire d'une certaine manière.
Il réécrivait l'histoire, puisque j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Mon père disait qu'il était résistant. Donc j'étais plutôt fier, à l'époque de Jean Moulin, justement, lorsque j'entends. Et puis on a mis un certain temps à comprendre qu'il résistait en fait contre le communisme. Bon, oui. C'est son droit. En 1942, ça a une autre force et un autre poids qu'en 1956. Et donc, en fait, mon père avait choisi le camp de l'ennemi. Et mon frère a fait des recherches. Il a trouvé effectivement qu'il avait été arrêté, incarcéré, jugé incarcéré.
Donc cette fugue, c'est aussi peut-être le premier éveil et la première conscience de quelque chose qui se joue, qui n'est pas tout à fait
qui n'est pas
conforme.
Lui, non, et qui est une autre France que celle que mon père m'avait inculquée de force.
Musique et moi. Elsa Boublil, France Musique.
Et c'est Serge Chalandon qui est l'invité de Musique et moi jusqu'à midi et demi sur France Musique. Vous avez quitté votre domicile, vous disiez que vous avez fait beaucoup de fugues, mais vous avez quitté le domicile parental assez tôt finalement.
Très tôt, oui, c'est avoir 16 ans et demi,
ah oui.
17 ans. C'est-à-dire que je faisais des fugues et j'étais ramené en fait par les gendarmes, une fois notamment. Et après, il y avait ce qui s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore, l'émancipation. Mmh. C'est-à-dire que les parents signent une feuille et vous êtes émancipé, vous êtes adulte, mais alors que vous ne l'êtes pas, et ils se lavent les mains, quoi. Voilà. Donc, j'ai demandé à être émancipé. Et après, j'étais sans domicile fixe. J'étais SDF pendant plus d'un an. À Paris.
À Paris.
Oui, parce que j'avais quitté Lyon. Je voulais mettre la distance entre moi et cette ville que maintenant j'aime. Je trouve que c'est une ville qui est magique, mais lorsqu'on est dans une enfance infernale, Lyon devient un enfer aussi. Et puis, je me suis retrouvé petit garçon errant.
Toten Tanz de Franz Liszt, interprété par Alfred Brendel avec l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction de Bernard Haitink, donc cette danse macabre sans chalandon, visiblement inspirée par les fresques d'Orcagna, Il Triunfo della Morte, qui décrit le jugement dernier au Campo Santo de Pise. Ça fait partie des œuvres que vous écoutez beaucoup.
Oui, c'est-à-dire que je dois avoir un rapport avec la mort ou un rapport avec les ténèbres, mais en tout cas, c'est vrai que je me sens... c'est terrible, parce que j'ai pas envie de plomber votre belle émission, mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus proche de ces lieux-là, de cette géographie musicale-là, de ce son-là, de cette violence-là même, que des choses beaucoup plus légères ou beaucoup plus joyeuses.
C'est pour ça que j'ai voulu le raccorder à votre vie de SDF parisienne, parce que c'est une période donc où vous êtes donc dans la rue et vous côtoyez le monde brut tel qu'il est, et c'est peut-être là que vous êtes né.
Alors, c'est là que je suis, je pense que c'est là que je suis né, simplement parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué que tout n'était pas comme mon père et ma mère. Et des gens que j'aime encore, même si la plupart ne sont plus là, mais des gens qui m'ont montré ce que c'était que la musique, ce que c'était qu'un spectacle, ce que c'était que le théâtre, ce que c'était que la peinture, ce que c'était que la littérature. Donc c'était, en fait, c'était un mouvement politique. J'aurais pu me retrouver chez les Témoins de Jéhovah ou je ne sais où, et je suis tombé sur des gens qui m'ont expliqué ce qu'était le respect, ce qui était prendre soin des autres, écouter les autres, et brusquement, né d'un père et d'une mère sans me laisser de traces, sans me laisser de socle, sans me laisser de bagages, j'étais un gamin des rues, et c'est dans la rue, et j'ai eu de la chance. Maintenant, avec le recul, j'ai 67 ans, je vois à quoi j'aurais pu ne pas échapper, mais j'ai échappé à tout ça, peut-être parce que j'avais une hargne en moi et des petits points, mais en tout cas, j'ai redécouvert, là, à ce moment-là, avec ces gens-là, ce qu'était la vie en général.
Et c'est comme ça que vous avez aussi découvert le journalisme, qui a fait bien que sûr. Vous êtes devenu l'homme que vous êtes,
c'est ça. On parle des mêmes gens qui étaient un mouvement politique, bon, plutôt d'extrême gauche,
maoïste,
à l'époque, c'est ça. Oui, c'est ça, et qui ont eu l'intelligence, si je puis dire, l'intelligence, de ne pas verser dans autre chose qui se profilait comme chez les Allemands ou comme chez les Italiens, c'est-à-dire la lutte armée, la violence, et qui ont dit si on se battait par d'autres moyens. Ils ont créé le journal Libération, et là je me suis dit waouh, c'est exactement ce qu'il me faut. Je ne suis pas journaliste, personne des gens qui ont créé ce journal n'étaient des journalistes. On avait simplement l'impression que les filles étaient habillées comme leur mère, les garçons comme leur père, que le jeune n'avait pas été inventé du tout, et qu'il fallait un journal qui nous ressemble.
Donc un combat par les idées.
Un combat par les idées, parce que le combat par la violence serait perdu d'avance.
Et c'est là que, donc, pour aller rapidement, vous avez commencé par les faits divers et très vite à couvrir la guerre.
J'ai adoré les faits divers, je trouve que c'est l'aristocratie du journalisme.
Thank you.
Wir setzen uns mit Tränen nieder, le chœur final de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le chœur de Saint Thomas de Leipzig et le chœur de garçons de Tölz sous la direction de Ricardo Chailly. Pour évoquer avec vous, c'est une proposition musicale que je vous fais sans Chalandon parce que on parlait de ce début fou à Libération où vous avez couvert les faits divers et puis la guerre vous a pris, on pourrait dire les choses comme ça. Et qu'est-ce qui a fait que la guerre vous ait pris sans Chalandon?
Alors j'avais deux raisons. Une première avouable. Je suis journaliste, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, et pour comprendre ce qui se passe, il faut que j'y sois. Voilà, ça c'est avouable. Inavouable, ça c'était au fond de moi, c'est que mon père avait planté la violence en moi comme une mauvaise herbe, et j'avais peur que cette mauvaise herbe se développe. Et je suis allé la griller au plus près de la violence la pire. Donc chaque fois que j'étais dans les lieux brutaux, les lieux de guerre, je sentais que la violence qui était en moi s'apaisait. Et je pense que sans la guerre, c'est étrange, parce que, hors les articles que j'ai pu faire, hors tout le travail que j'ai pu faire autour de ça pour Libération, je pense que sans la guerre, j'aurais peut-être pas été un père. Donc il fallait impérativement que tout ce que j'avais vécu avec ce père-là soit annihilé, soit étouffé par quelque chose de plus immense encore que la violence d'un père. Et la violence d'un père, ce qui est plus immense que la violence d'un père, c'est la guerre.
C'est comme ça que vous vous retrouvez devant la folie de Sabra et Shatila?
Devant la folie de Sabra et Shatila, mais devant toutes les folies, puisque il y a eu des massacres partout. Mais le problème de Sabra et Shatila, et pour moi, c'est une des pires choses que j'ai vécues, c'est que même un enfant qui est tué dans un bombardement, c'est pas la même chose qu'un enfant qui est tué au couteau. Et il y a des hommes, qui avaient sur la crosse de leur fusil, qui avaient des Vierges Marie collées, des chrétiens libanais qui ont tué des enfants au couteau dans des berceaux. Et ça, on n'en revient pas intact. Et je veux pas être intact. Les gens disent faut tourner la page. Moi, je veux pas tourner la page. Je veux la garder en moi pour toujours.
Ne pas oublier.
Non. Et puis pour on marche dans une rue. On est en temps de paix. On est entouré d'hommes ordinaires qui peuvent brusquement être pris par la guerre, volés par elle et devenir des monstres. Et je pense que toujours je me suis dit ça. Il y a pas eux les monstres et puis moi le mec bien. Il y a moi qui ai un monstre en moi et qu'il faut lutter contre. Et cette guerre contre le monstre en moi, c'est une guerre que je mène depuis tout petit.
La Passion selon Saint Matthieu, c'était pour évoquer ce mélange de grâce et de violence.
Oui.
Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça correspond à ce que je voulais évoquer? Est-ce que ça vous...
Oui. Oui, ça me parle, ça correspond à... C'est une mise en musique de ce qui boue en moi.
un extrait de l'ouverture de Tannhäuser de Richard Wagner par l'orchestre du Metropolitan Opera de New York sous la direction de James Levine. J'ai envie de vous laisser la parole directement sur Chalandon parce que pendant qu'on l'écoutait, c'était tellement illustré ce que vous disiez en écoutant la musique.
Ça c'est, j'avais quelque chose qui m'était propre et qui m'était personnel et qui m'était un petit peu secret. C'est que parfois, lorsque j'étais sur des fronts de guerre, j'avais peur, ou je me sentais pas bien, ou j'étais parce que j'étais loin de la paix, donc loin de chez moi. Et j'avais à l'époque les petits Walkman avec de la musique dedans, et j'avais l'habitude de mettre soit Tannhäuser, soit Parsifal sur le Walkman, parce que je trouvais que c'était une musique qui correspondait exactement à ce que j'étais en train de voir. C'est-à-dire que je ne suis pas assis sur un fauteuil d'orchestre à regarder des gens jouer magnifiquement d'un instrument. Je suis en train de marcher dans du sang humain. Je suis en train d'être comme Achatilla au milieu des corps ou de sortir d'un bombardement et de voir les gens qui se lèvent couverts de boue, couverts de suie, couverts de plâtre. Et cette musique-là, pour moi, a toujours évoqué soit ceux qui partent à la guerre et la fin des combats, quand dans une semi-obscurité, les derniers se lèvent, les blessés, mais tout le monde se lève. Et cette musique-là m'évoque toujours un champ de bataille avec les gens qui se lèvent, les vivants comme les morts. Et ils vont dans le même sens. C'est-à-dire que les morts montrent aux vivants le chemin du tombeau. Il n'y en a pas un qui revient sur ses pas, il n'y en a pas un qui rentre à la maison. Tous partent là où il faut qu'ils aillent, tous partent là où la guerre les conduit, c'est-à-dire à la mort. Et chaque fois que j'ai écouté ça, et c'était trop, parce que je ne pouvais pas, par exemple, écrire un article avec cette musique, parce que écrire un article de presse avec cette musique-là, ça vous laisserait aller à des choses qui sont impensables, d'écriture ou d'émotion, c'est pas possible. Mais en tout cas, pour ne pas avoir peur, mon carnet à la main et mon stylo, j'avais souvent ces musiques dans les oreilles juste pour faire partie de cette cohorte de fantômes, mais moi pour leur tourner le dos et pour aller vers la lumière.
Et on l'a évoqué tout à l'heure, la guerre, ce besoin de vous confronter à votre propre violence, est-ce que cette musique faisait appel aussi à cette violence qu'il faut contrôler?
Oui, c'est-à-dire que c'était pas une musique qui me calmait, c'est pas une musique qui me rendait serein. La guerre était mise en musique parce que j'écoutais, il fallait un jour que je me débarrasse et de la guerre et de cette musique. Thank you.
Cecilia Bartoli avec l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome sous la direction de Myung Woon Chung interprète ce Pi et Jésus du Requiem opus 9 de Maurice Duruflé, qui est une partition que vous avez beaucoup écoutée, Sorche Alandon, pour écrire le quatrième mur, donc qui évoque précisément la guerre dont nous parlions tout à l'heure, Sabra et Shatila au Liban. Et c'est vrai que la question qui évidemment vient directement, vous disiez que il fallait que vous débarrassiez de la guerre et de cette musique. Est-ce que l'écriture vous y a aidé?
Oui, l'écriture m'y a aidé, mais surtout il n'y a pas de rapport entre Tannhauser et Duruflé. C'est-à-dire que Tannhauser est une invitation au combat, ou en tout cas à la violence des hommes, je trouve. Et Duruflé, ce que j'ai donc effectivement écouté en boucle, notamment pour tout ce qui, dans mon livre Le Quatrième Mur, parle de l'entrée de mon héros, Georges, qui est un metteur en scène de théâtre, à Shatila. Et lorsqu'il le croise, les morts les uns après les autres, et notamment les morts, les enfants. Et je tenais impérativement à avoir cette musique-là, parce que, en moi, véritablement, comme si les notes étaient mélangées au sang, parce que je suis à Paris, je suis en France, à tout moment, l'une de mes filles peut frapper à ma porte en me disant « Quand est-ce qu'on dîne, papa ?» Je veux pas ça, parce que je suis en train de travailler et d'écrire sur des enfants qui meurent, donc, ou des enfants qui sont morts. Donc moi, j'ai besoin que quelqu'un d'autre me souffle des notes et me souffle des mots. Et une fois que tout ça est en moi, une fois que je fais corps, avec notamment avec Duruflé, avec la voix de Bartoli, je sais que je suis en train d'être apaisé. Donc je suis apaisé par la musique qui lutte contre les mots qui sont les mots de la violence, puisque entrer dans un camp après un massacre, vous décrivez le massacre, vous décrivez le camp, mais en même temps, je sais que cette musique, c'est comme un fil d'Ariane, cette musique, c'est mon fil pour ressortir du camp, pour ressortir du roman, pour ressortir à la lumière, et pour me retrouver enfin avec quelqu'un qui frappe à la porte en disant « Papa, on dîne quand ?»
Mais ça veut dire que pendant l'écriture, pendant la recherche de ces mots, pendant la recherche de la restitution, effectivement, de la violence, et à la fois avec votre parole à vous, vous écoutez ce Pi et Jésus ? Comment coïncident les voix ?
Mais les voix, c'est moi qui... C'est très étrange, parce que... Et d'ailleurs, c'est une chose qu'il faut absolument toujours... Il faut que je m'en souvienne tout le temps. C'est pas que les voix coïncident. C'est que c'est comme mon cœur qui bat. Je fais battre mes mots à la vitesse des voix. C'est-à-dire que les voix ne coïncident pas, ou les notes ne coïncident pas avec ce que j'écris. C'est moi qui me plie à ce que les notes et les mots me dictent. Mais en revanche, quand je relis le texte, le lendemain par exemple, c'est sans musique, pour me retrouver vierge de tout.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et d'ailleurs, Sorge Chalandon, vous le disiez, en écoutant ce Pi et Jésus, ça me pose un problème là. Je n'écris pas, je l'écoute, je l'écoute, je n'écris pas. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Pour moi, le problème, c'est que ce Pi et Jésus, maintenant, c'est à peu près systématique, je le réécoute à chaque livre, avec Sospiri, donc qui est
l'album de Cecilia Bartoli.
Voilà, de Cecilia Bartoli. Et chaque fois que j'entends Pi et Jésus, ou que j'entends Sospiri, ou que j'entends Bartoli, j'ai l'impression que je suis retourné dans le monde de mon écriture. Et quand j'entends cela pour rien, je me dis, mais c'est comme si... c'est terrible ce que je vais dire, parce que ça n'a aucun sens, mais je me dis, mais qui a le droit d'écouter ça sans raison?
Nos auditeurs. Merci bien d'être sûr là, Sorge Chalandon.
Oh! of him that cried in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
Un extrait du Messie de Handel par le Concert d'Astrée sous la direction d'Emmanuel Haim avec Andrew Staples qui a interprété ce récitatif. C'est une œuvre qui raconte les grands épisodes de la vie de Jésus. C'est une œuvre que vous avez écoutée sans Chalandon à un moment précis de votre vie. La musique, on dirait, arpente votre vie. Et là, c'est un moment quand même assez crucial.
C'était exactement en septembre 2018. Donc, il y a un an exactement, je sortais de l'hôpital après un cancer. Donc, j'avais besoin de marcher dans la rue. J'avais besoin de me retrouver chez moi, dans le silence. Et je ne voulais aucun des bruits de la vie. Et je voulais être confronté à une passion, à une autre passion. Et j'avais envie de me retrouver sur mon petit Golgotha à moi. Et c'était important, enfin il était à ce moment-là en tout cas important pour moi que ne rentre dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ventre, ni les petits bruits d'oiseaux, ni le bruit du vent, ni le bruit des feuilles, ni les rires des enfants. J'étais malade, j'espérais être guéri. Et je voulais être nourri d'autre chose que de la vie qui coule partout. Je voulais être nourri de quelque chose qui me semblait supérieur.
Donc une musique spirituelle.
Donc une musique spirituelle.
Par un non-croyant, un athée notoire.
Bien sûr, mais c'est une musique spirituelle quand même. Je n'ai jamais dit que j'étais croyant et non-athée notoire, donc voilà, peut-être qu'on s'est rencontrés.
D'accord. Parce que, évidemment, la question qu'on se pose, c'est, on pense bien sûr à Une joie féroce, au roman que vous venez de publier, dans lequel vous vous mettez dans la peau d'une femme. Pourquoi ce besoin de mettre d'abord dans la peau d'une femme? Et qu'est-ce que ça a pu apporter de supplémentaire par rapport à cette problématique qui vous a concerné aussi?
Alors, d'abord, on m'avait souvent reproché dans tous mes romans, dans les 8 romans précédents, on m'avait pas reproché, mais on m'avait fait remarquer que la femme tenait un rôle extrêmement mineur. Ce sont des femmes ombres, des femmes éteintes, on les voit pas trop, on n'arrive pas à les appréhender. Elles sont là souvent que parce que les hommes vivent, donc soit elles, c'est pas qu'elles meurent, mais elles sont peu là. Et je m'étais toujours dit qu'un jour j'avais envie, non pas pour m'excuser, mais pour leur donner toute leur place, de les remettre au cœur d'un roman. Et ma femme a été diagnostiquée, donc cancer du sein, en janvier 2018, et puis moi, 11 jours après. Donc si je vous ai parlé de septembre tout à l'heure, c'est parce que j'ai attendu qu'elle soit guérie pour moi, m'occuper de moi. Et quand elle est tombée malade, il a eu une phrase qui, vous l'imaginez, résonne en moi encore aujourd'hui. Elle m'a regardé différemment, elle avait une attitude différente, une façon de marcher, même dans la rue, différente, quand on est sorti de l'hôpital. Elle m'a dit « je suis en guerre ». Et ce « je suis en guerre », pour moi, c'était quelque chose évidemment que je connaissais, que j'avais entendu, que j'avais vécu, que j'avais subi. Et tout de suite, je lui ai demandé si elle voulait bien que j'écrive, non pas un journal de guerre, mais en tout cas que des choses que je venais de voir. Par exemple, lorsqu'elle demande « je pleure quand ?» à une infirmière, que l'infirmière ouvre les bras et lui dit « maintenant ». Ces moments-là sont tellement magiques, tellement beaux, tellement insensés, parce qu'il y a avant le cancer et après on a changé, le monde a changé, les gens ont changé, le regard a changé. Je me suis dit, je veux pas que ça se perde, ça. Qu'est-ce que je vais faire du cancer de ma femme? Puis quand le mien est arrivé, je me suis dit, voilà, j'ai deux solutions. Soit je fais quelque chose sur un cancer d'homme, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt. Ça ne m'intéressait pas. En revanche, j'allais enfin pouvoir écrire un livre raconté par une femme. Une maladie qui serait notre guerre à deux, mais je voulais être Jeanne, je voulais être cette femme-là, je voulais être cette combattante-là, je voulais que ces femmes qui avaient été tellement ignorées dans mes romans, peut-être à cause de ma mère que j'ai très peu connue en fait parce qu'elle n'était pratiquement pas là en amour.
En tout cas effacée. Oui.
En tout cas effacée, je me suis dit je vais les remettre au centre et je vais en faire exactement ce qu'elles auraient dû toujours être, des résistantes et des combattantes.
Éric Le Sage interprète le Nocturne pour piano numéro 11 en fa dièse mineur opus 104 de Gabriel Fauré. Fauré qui figure parmi vos compositeurs de chevet sur Chalandon. Et j'ai tout de suite envie de vous demander, parce que après ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est, on, évidemment, on se dit, est-ce que la musique vous reconstruit?
Ah mon Dieu. Je suis pas sûr qu'elle me reconstruise, mais elle me montre un chemin qui n'aurait peut-être pas été le bon. J'aurais pas pris ce chemin-là. Je pense que non, moi, ce qui me reconstruit, donc, c'est le rire de mes enfants, ça c'est sûr. Mais la musique, elle me dit qu'il n'y a pas que les bruits du père. Elle me dit qu'il n'y a pas que les bruits de la guerre. Et elle me montre, voilà, elle me fait tourner le dos à des choses que je ne supporte plus. Donc la reconstruction, ça me semble trop violemment simple. Elle me prend par la main. Notamment la musique romantisme ou le baroque que j'aime, je dois être assez romantique et baroque, mais en tout cas ces musiques-là me parlent de quelqu'un en moi que je ne connaissais pas, que je connaissais mal. C'est-à-dire qu'elle me fait me dévoiler différemment. Quand j'écoute Fauré, par exemple, j'ai l'impression presque d'être un enfant. J'adore ce moment-là, j'ai plus que de la douceur en moi. Voilà, donc je ne sais pas si elle me reconstruit, mais en tout cas, elle m'aide à ne pas me déconstruire.
Il y a aussi, il y a bien sûr Fauré, et puis il y a aussi tout à fait autre chose, il y a les chants grégoriens. Les chants grégoriens que je vous propose là d'écouter dans une prise de son de Bernard Charron, puisqu'à Radio France, on a énormément d'enregistrements sonores comme ça, et notamment là, c'est dans une église, en tout cas des chants grégoriens qui ont été enregistrés par Bernard Charron et que je vous propose d'écouter. Vous adorez.
J'adore.
Ouais.
Non, je pensais à ça parce que tout d'un coup, je me suis dit, c'est étrange parce que tout ce que je choisis, toutes les musiques que j'entends, qui me marquent, je me disais, mais est-ce que ça a un rapport avec la foi? Et je suis pas sûr. Je crois que, parce que c'est une question que je me pose souvent. Moi, je sais que les chants grégoriens, ça m'arrive de rentrer dans des églises où il y a des prêtres qui chantent, comme la communauté monastique de l'abbaye de Saint-Ventry, qui font aussi leur bière. Mais en tout cas, je les ai entendus chanter. Je me suis dit, mais en fait, je me sens plus proche de la beauté, du respect, de la dignité que de la foi. Alors peut-être que le respect, la dignité et la beauté font partie de la foi, mais je ne suis pas bercé par quelque chose qui me semble de l'ordre de la croyance, mais quelque chose qui me semble de l'ordre de ce que j'aimerais que les hommes soient.
Oui, et puis là, en l'occurrence, là, ces voix de chant grégorien, il y a quelque chose presque de la pureté. Enfin, il n'y a pas de fioriture, quoi.
Non, ce sont des voix, ce sont des hommes, ce sont des cœurs, et on ne joue pas avec ça. Je pense qu'on ne peut pas tricher avec le chant grégorien.
Un extrait de chant grégorien, donc enregistré par Bernard Charron, qu'on salue puisque il y a un petit lien de parenté avec Sophie Pichon qui réalise cette émission, à la cathédrale León en Espagne. Une dernière question sur ces voix, sur ces chants. Vous disiez donc que on peut pas dire que ça vous reconstruise. Il y a un autre terme qui m'est venu comme ça en vous écoutant. Je me suis dit, ça vous rapièce, Sorge Chalandon.
J'aime mieux. Oui. Enfin, depuis Philippe Lançon, je crois que donc qui a été très grièvement blessé à Charlie Hebdo, je pense
qui a écrit Le Lambeau.
Le Lambeau, je pense que le mot de Lambeau ne peut plus être employé. Je ne l'emploierai plus jamais si j'ai pu, et je m'en excuse auprès de lui, l'avoir employé dans le passé avant que ça lui arrive. Mais c'est ça, je me sens plus rapiécé, disons des petits morceaux rapiécés plutôt que reconstruits.
Éric Satie, Gymnopédie numéro 1, interprété par Aldo Ciccolini, qui nous renvoie, je crois, sans Chalandon, justement, on parlait de ce rapiécé. Vous avez parlé aussi de cette question de devenir père et ce cheminement vers la paternité. Et là, la Gymnopédie numéro 1, c'est la naissance de votre
première fille. C'est la naissance de ma première fille, Sarah. Et alors, peut-être que ça passe pas très bien à l'antenne, mais c'est un morceau que je trouve extrêmement joyeux. Alors peut-être que
vous voyez, peut-être vous qu'on avez se dit, une conception,
vous avez une conception de la joie qui est assez étrange. Moi, je trouve que c'est, je trouve que ce sont des petites gouttelettes d'eau sur une petite de bébé, c'est la rosée, c'est je trouve ça voilà, et je l'ai écouté en sortant de l'hôpital et enfin de la maternité, et je sautillais. Alors c'est étrange, c'est pas une musique qui prête à sautiller, mais je trouvais que c'était en fait j'avais l'image d'une sorte de fleur qui est en train d'éclore doucement, et chaque pétales qui se développe comme ça, et c'était, et j'ai donc pour moi c'était en tout cas la première gymnopédie sera toujours liée et toujours alliée à la vie, et à la vie que sa maman et moi venons de donner à un enfant, sa maman qui s'appelle Evelyne.
Et en devenant papa, vous avez eu peur?
Bien sûr. Je pense qu'il faudrait un permis de père comme un permis de conduire. Donc oui, bien sûr que j'ai eu peur en devenant père, j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur et j'ai eu peur de me retrouver un jour avec un enfant qui aura en tête des bruits de savates, des raclements de gorge, des bruits de fourchette et le silence. Dieu merci, notre maison est un lieu de chansons, de musique, de paroles, de bruit et je m'y sens très bien.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et Cecilia Bartoli, œuvre pour mettre de la joie chez vous. On va se quitter sans Chalandon, malheureusement, déjà. On va se quitter avec un air que vous pourriez tâcher de siffler, mais pas trop longtemps. C'est Vado a morir de la Forza dell'Amore e dell'Odio de Francesco Araya, et interprété par Cecilia Bartoli.
Alors, en fait, je ne siffle pas sous ma douche, je chantonne.
D'accord.
Donc, je ne m'aventurerai pas au-delà de l'intro. Mais ça ferait quelque chose comme la 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 la. Voilà, et après je mets l'eau à fond et je m'entends plus.
On n'entend plus rien.
Non.
Merci beaucoup Serge Chalandon d'être venu passer 7h30 en notre compagnie. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Une joie féroce, paru chez Grasset, à lire impérativement pour entrer dans les vies de ces quatre femmes brisées et qui sont pourtant pleines de vie. J'ai envie de reprendre votre phrase mantra. Notre revanche sera le rire de nos enfants. Un grand merci à vous.
Merci.
Tu mi desti un cor.
Cecilia Bartoli pour terminer cette émission en compagnie de Sorge Chalandon qui vient de signer Une joie féroce chez Grasset. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Un grand merci à Marie Le Peintre qui était à la prise de son, Sophie Pichon, réalisation, attachée de production, Marie Ferdinand. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à 11h. D'ici là, une très belle semaine. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.